J'ai dit à mes enfants, mes bébés éléphants, regardez l'homme blanc, ça c'est un président. C'est celui qui sourit et qui tient un fusil. Il dirige un pays où il n'y a pas d'éléphants. Qu'est-ce qu'ils ont dans là-bas? Ils ont pas d'éléphants, mais ils ont des moutons, des troupeaux de moutons, et puis un président. Qu'est-ce qu'ils font ces moutons? Ils ont jamais le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient pour tuer le temps. Est-ce qu'il a des enfants?
La musique.
Caravane à maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Inoubliable.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, radio-libertaire.net, ça c'est partout dans le monde, et à Gennevilliers par exemple. Nous sommes les Oreilles Libres, une émission consacrée aux musiques singulières, autres formes de création curieuses, musique singulière, expérimentale, musique improvisée, toutes sortes de choses, mais aussi aujourd'hui un peu, on va parler un peu de tango, mais pas seulement et pas uniquement. Ce qu'il y a de particulier dans notre émission, c'est qu'on n'aime pas trop les cases, et je crois que ça tombe bien avec notre invitée du jour, qui est Louise Jalut. Bonjour Louise.
Bonjour Christophe.
Alors on va en parler plus tard. On a commencé l'émission avec À Gennevilliers, toujours, extrait de l'album Jeu qui sort le 7 mars, qui est ton troisième album sous ton nom, Louise Jalut. Alors, peut-être pour commencer, Louise, j'aimerais savoir comment tu as appris à jouer de la musique, quel genre d'études musicales as-tu suivi, et est-ce que le bandoneon était ton premier choix, parce que c'est quand même un instrument plutôt rare. Moi, je crois que c'est la première fois qu'on invite un ou une bandoneoniste.
Bravo, c'est pas facile à dire. J'ai commencé mes études au conservatoire de Gennevilliers, qui a créé les premières classes de bandoneon, les premières en Europe, il y a 30 ans. C'est Bernard Cavana, à l'époque directeur du conservatoire, qui, par passion pour ses instruments à hanches libres, a voulu créer, pour la première fois, des classes de bandoneon. Il se trouve que ma sœur a tout de suite souhaité jouer du bandoneon, et c'est elle qui me l'a mis dans les mains, alors que j'avais 5 ans.
Ah oui.
Et c'est de cette manière, voilà, que tout a commencé.
Donc c'est vraiment ton premier choix, enfin, oui.
C'est mon premier choix, et puis après j'ai jamais eu d'envie de changer d'instrument. Pour moi, il me convenait parfaitement.
Alors, tu vas voir que je vais poser des questions de profane, mais tu parles d'instrument à hanche libre. J'aimerais bien que tu nous parles de l'instrument qu'on connaît peu, et j'ai presque honte de te demander quelle est la différence avec un accordéon qu'on connaît beaucoup mieux. Est-ce que peut-être ça n'a rien à voir? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de comparable à l'alto par rapport au violon, ou à la contrebasse par rapport à la basse électrique, je ne sais pas.
Alors, c'est pas tout à fait comparable, parce qu'effectivement, ce sont des instruments à hanches libres, mais qui ont des claviers qui sont vraiment très différents. Oui. On n'a pas la même logique que les instruments à cordes. C'est un instrument qui est utilisé grâce au souffle. En fait, c'est le souffle de la compression du soufflet qui met en vibration les lames. Et on a donc un clavier à la main droite, un clavier à la main gauche, et en apparence, parce que une touche produit deux sons différents. On dit qu'il est bisonore. Donc on a en fait quatre claviers différents. Ah oui. Et c'est un peu une gymnastique cérébrale.
J'imagine. Oui. Ah oui, est-ce que c'est un peu comme un harmonica? On souffle et on...
Exactement, c'est aspirer ou souffler. C'est ah oui. Exactement la.
Et ça produit deux sons.
Le même principe, exactement.
Ah oui, d'où il faut. Ah, c'est compliqué. Quelles ont été les tu as parlé de Bernard Cavana, j'imagine, mais quelles ont été les autres rencontres déterminantes dans ton parcours?
Alors j'en ai eu plusieurs, évidemment. En fait, c'est les études musicales, c'est surtout avant tout des rencontres. J'ai étudié auprès de César Strossio, qui a été assez connu pour avoir joué dans le Quartetto Cedrone, ou encore le Trio Esquina. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, beaucoup touché pendant de nombreuses années. Après, auprès de Bernard Cavana lui-même, puisqu'il était directeur, mais aussi professeur au conservatoire de composition et d'analyse. Ensuite, j'ai fait diverses collaborations, dont le deuxième CD avec Gustavo Bettelmann, qui m'a aussi beaucoup marqué dans mes études. Et bien sûr, tous les musiciens avec lesquels je collabore encore aujourd'hui, ce sont des formidables musiciens de musique improvisée, du jazz, mais pas seulement en fait. Ce sont voilà, ils traversent les genres, ce sont des musiciens entiers. Voilà, c'est à travers toutes ces rencontres.
Alors, le bandoneon est né en Allemagne, j'ai vu ça. Hein. C'est un instrument allemand, c'est incroyable. Hein. Mais bon, par contre, on sait très bien qu'il est lié au tango et à l'Argentine. Est-ce que tu écoutais cette musique, le tango, dans ton enfance, ton adolescence? Quelle musique écoutais-tu?
Alors, j'ai écouté beaucoup de musique classique, mais aussi du jazz. J'ai écouté beaucoup Bartok, j'ai écouté Bach. Du côté du jazz, plutôt Mingus. C'est ma famille et mes parents qui sont de grands mélomanes et qui m'ont fait découvrir toutes ces musiques. J'ai été fascinée par toutes ces découvertes en fait au fur et à mesure de mes âges. Et bien sûr, j'ai joué du tango au conservatoire avec mon instrument autant traditionnel que Astor Piazzolla, qui est un, comme on dit, il l'a dit lui-même, du tango nuevo. Et des créations contemporaines.
Ah oui. Et il y a un répertoire contemporain pour le bandoneon?
Alors, il existe quelques pièces, oui. Ouais. Dont une de Kagel, qui est assez intéressante parce qu'elle est aussi bien. Il est possible aussi bien pour un amateur de la jouer que pour un professionnel. C'est une musique qui est en fait basée sur le côté stéréo de l'instrument, c'est-à-dire la main droite et la main gauche. On se tourne sur une chaise qui permet de faire entendre un peu plus la main droite ou un peu plus la main gauche au public. C'est assez intéressant.
Ah oui,
et bien sûr, j'ai créé deux pièces de Bernard Cavana. On a créé la sonatine 43 et la sonatine élément, dans lesquelles on explore des nouveaux modes de jeu pour le bandoneon.
Ah, super. Ah, très bien. Et alors, ce qui est étonnant dans ton parcours, c'est que, au-delà du tango, évidemment, propre au bandoneon peut-être, tu navigues dans des esthétiques fort différentes. On a parlé du jazz, de la musique contemporaine. Et comment tu expliques ça, le fait que tu ne sois pas spécialisé dans un registre qui serait assigné, tu vois, bandoneon égale tango? Est-ce que c'est dû à ton apprentissage, les rencontres dont tu parlais, ou comment tu expliques ça?
Alors, je crois que c'est une question de sincérité envers moi-même, en fait. C'est-à-dire que j'ai appris la culture argentine. Je suis partie aussi en Argentine. J'ai fait ce pèlerinage que font beaucoup de bandoneonistes. J'ai appris à parler la langue, l'argentin, qui est un peu différent de l'espagnol.
Oui.
Je me suis vraiment plongée, voilà, dans cette culture et j'ai joué tous les styles possibles, parce qu'il existe beaucoup de styles différents de tango. Ça, on le sait pas assez. C'est vrai que c'est propre quand même à cette musique. Dans les années 50, il existait des milliers d'orchestres en fait à Buenos Aires. Des bals étaient en permanence, enfin, on jouait en permanence. Les orchestres étaient dans chaque bal, et pour se différencier de l'orchestre et du bal du coin d'à côté, il fallait inventer son style. Donc, dans l'orchestre, dans le répertoire du bandoneon, pour orchestre typique de tango, on a plein de styles différents qui sont fascinants, hein, tous de variantes tellement. Et c'est assez incroyable. Donc, j'ai étudié tout ça. Quand j'ai souhaité faire mon premier album, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment à dire? C'est-à-dire, je suis fascinée par et très admirative par toute cette culture, mais ma propre culture, quelle est-elle? Et donc j'ai creusé un peu cette démarche, cherchais beaucoup, et puis j'avais aussi beaucoup de goût pour le jazz. Donc je pense que de fil en aiguille, je me suis orientée assez naturellement vers ce que je fais aujourd'hui.
Ah, super. Tu as prononcé une expression qui me... qui me pose question. Tu parles d'orchestre typique du tango. Quel est-il, cet orchestre typique?
Alors, l'orchestre typique de tango, c'est 4 bandoneons, 4 violons.
Oh.
Un peu plus. Au départ, il n'y en avait pas, mais après, un violoncelle, contrebasse, piano, alto aussi, dans la section de cordes,
ouais.
Et parfois un chanteur.
Ah oui.
Au devant de la scène. C'est vraiment la formation utilisée dans les balles de tango.
Ah oui.
À l'époque, pour faire danser les gens. Voilà, au moment.
Mais pourquoi 4 bandoneons?
Pour pouvoir remplir toute la salle de bal. Il fallait cette intensité, en fait, cette puissance sonore pour permettre qu'une salle qui pouvait, ouais, remplir 2000 danseurs, hein, soit,
ah oui, d'accord,
remplie de son.
Ah, incroyable. Ah, c'est super. Est-ce que, alors justement, tu parles de, on parle de mélange entre tango, jazz, contemporain. Est-ce qu'un parcours, est-ce que tu sais si un parcours tel que le tien est possible en Argentine? Autrement dit, est-ce que le monde du tango là-bas est ouvert aux expériences?
Ah, oh oui, je pense, oui. À l'époque de Astor Piazzolla, certainement pas,
ah,
ou beaucoup moins. Il a eu beaucoup de problèmes à faire reconnaître sa musique, qui était inspirée du tango, mais qui était quand même tout à fait personnelle. Alors, il s'est beaucoup bagarré à l'époque, quand on avait un concert de Astor Piazzolla, on l'attendait à la sortie pour lui casser la figure.
Ah oui.
Aujourd'hui, c'est plus le cas, heureusement. Alors.
Tu es sereine à tes concerts, là,
oui,
à tes sorties de concert.
Oui, oui, heureusement. On est. Non, on a beaucoup de liberté aujourd'hui de pouvoir s'emparer. De musique ou de genres musicaux comme on le souhaite.
Ouais.
Aujourd'hui en Argentine, il y a beaucoup de nouvelles musiques, hein, qui s'inspirent du tango. Depuis Astor Piazzolla, en fait, tout s'est ouvert à d'autres possibilités.
Voilà, donc on n'a pas les puristes comme ça. Et alors, dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a beaucoup d'instrumentistes femmes dans le tango, ou est-ce que c'est une question qui se pose, ou peut-être qu'elle ne se pose plus?
Alors, elle se pose malheureusement encore,
ah,
mais beaucoup moins aussi. Mmh. Il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui jouent du bandoneon. Je parle plus du bandoneon, hein, que du tango.
Oui, d'accord.
En Argentine aussi. Aujourd'hui, j'enseigne au conservatoire de Gennevilliers. À mon tour, parce que j'ai eu la chance et l'honneur de succéder à mon professeur. Et j'ai beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui jouent,
beaucoup
que d'hommes. Donc je suis très heureuse de voir que les choses évoluent.
Ah, c'est super. On va parler de ton album Francesita. Mais avant, j'aimerais savoir, quelles ont été tes premières formations? Est-ce que tu as tes premiers concerts en tant que musicienne professionnelle? Est-ce que tu avais des groupes? Est-ce que c'était quoi?
Alors oui, je me souviens très bien de mon premier concert. C'était dans une librairie. J'avais 16 ans et c'était pour la sortie d'un livre sur Astor Piazzolla de Emmanuel Honorin. Et elle m'avait demandé si je pouvais venir jouer quelques morceaux de Piazzolla au bandoneon pour la sortie, et j'ai fait ça avec grand plaisir. C'était mon premier cachet, j'étais très fière.
Ah, génial.
Et après, j'ai monté mes propres formations, j'ai joué dans d'autres groupes, j'ai aussi fait des spectacles. J'ai participé à un spectacle de Nathalie Joly autour de la chanson. J'ai aussi fait un spectacle de marionnettes. J'ai adoré faire ça, c'était génial. Enfin voilà, j'ai eu quelques collaborations à droite à gauche, et puis mon propre groupe avec lequel je travaillais déjà sur des nouveaux arrangements.
Ah oui, d'accord. Tout ça, c'était avant le Luis Jalú Quartet.
Exactement.
Qu'on va écouter avec Francesita, extrait de l'album, du double album Francesita.
Bye.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et nous recevons Louise Jalut aujourd'hui. Alors, Louise, tout simplement, est-ce que tu peux nous parler de ce projet Francesita, double album, que tu as élaboré à partir d'un livre de Albert Londres ?
Oui, alors c'est mon premier disque qui est sorti en 2018. Francesita, c'est La Petite Française.
Ah oui.
Et c'est le titre d'un tango de Enrique Delfino, qui date donc des années 20. Enrique Delfino, c'est un pianiste qui a été assez célèbre à cette époque en Argentine. Il travaillait pour le théâtre et puis il a écrit aussi ses propres morceaux sur des poésies du moment. Et la plupart des poèmes de cette période parlent de ces femmes qui ont un amour pour... en fait, ce sont c'était à l'époque, malheureusement, des victimes de la traite des blanches.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est l'amour qui transparaît dans ces poésies entre celui qui est venu et puis ces femmes, qui souvent, malheureusement, meurent de maladies. La syphilis, c'était assez courant. Et j'ai eu envie, en fait, de prendre ces poèmes, ces musiques de Enrique Delfino, et d'en faire un spectacle, mais toute autre chose. C'est un thème très enjoué. Au contraire, ici, voilà, de le faire tout à fait nostalgique,
ah oui,
en fait, de le faire à l'inverse. Parce que pour moi, c'était absolument pas logique de parler de cette femme victime de la traite des blanches avec une musique enjouée derrière. Voilà, donc j'ai pris le contre-pied.
Oui, parce que Delfino, son esthétique à lui, c'était ce que tu dis là, des choses un peu enjouées, machin, on rigole bien. Quoi.
Alors, comme il travaillait pour le théâtre, c'est très théâtral.
Ah, okay.
Alors, c'est très, il y a beaucoup de tendresse aussi en dehors du côté enjoué. Et Grisetta, qui est un autre titre, elle l'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins ce côté enjoué. J'ai beaucoup aimé sa musique à Enrique Delfino. Elle était très moderne pour l'époque. Et j'ai voulu lui rendre hommage aussi dans cet album. Donc voilà, on a plusieurs titres, La Grisette, Claudinette. Voilà, c'est tous ces surnoms qui ont été donnés à ces femmes à cette période.
Ouais. Et alors, quelle importance a Enrique Delfino dans l'histoire du tango argentin ? Est-ce qu'il a apporté quelque chose ?
Oui, je crois qu'il a apporté d'autres couleurs harmoniques.
Ah, okay.
C'est un des premiers, peut-être, à oser un peu plus des sonorités, en pouvant ajouter des septièmes, des neuvièmes. Voilà, on est plus dans ce genre de choses que de la tonalité basique, ouais. En fait, ouais. À l'époque, dans les chansons.
Ah bah c'est déjà bien, mais je m'attendais pas à cette réponse-là, parce que je me suis un peu renseigné vite fait, comme on fait maintenant sur Internet, et je me demandais s'il n'était pas l'initiateur du texte dans le tango. Tu vois, tu parles de ses poèmes, et est-ce que c'est pas un des premiers à chanter, enfin...
Alors, lui ne chantait pas, mais c'est vrai que le tango chanson naît aussi à ce moment-là.
Ah ouais.
Et il fait partie des compositeurs qui ont marqué l'histoire des tangos chantés. Ses morceaux ont été chantés par Carlos Gardel, pour la petite histoire, qui est Carlos Gardel, comme on le connaît, le grand chanteur représentant du tango de cette période.
Ah ouais, on le connaît grâce au cinéma, d'ailleurs.
Aussi.
En partie. Hein. Qu'est-ce qui t'a touché, toi, dans le sort de ces femmes, hein, au-delà... je crois que le livre d'Albert Londres est une critique de l'ordre social qui aboutissait à l'exil et à la prostitution. Est-ce que tu portes toi-même une telle critique, peut-être plus sur ces thèmes-là, mais sur d'autres thèmes ?
Oui, alors c'était ce qui me tenait à cœur, c'était de montrer une autre justement image des origines du tango,
oui.
Qui sont celles-ci. En fait, elles sont sombres. Hein, c'est né de cette situation, ces vagues d'immigration et ces hommes qui se sont retrouvés sans travail aussi sur place et puis qui a donné lieu à cette traite des blanches. Donc c'était pour changer l'image qu'on avait des origines du tango et cette image aussi très sensuelle, érotique qu'on voit un peu partout, le rouge et le noir, ça m'agaçait assez.
Et quelques mots, on n'a pas beaucoup parlé du livre d'Albert Londres. Je ne sais plus le titre d'ailleurs.
Le chemin de Buenos Aires, sur le chemin de Buenos Aires.
Est-ce que. Quel est le processus qu'est-ce qui te donne le déclic pour ce projet? Est-ce que c'est la lecture du livre ou plutôt les musiques de Delfino? Comment ça se passe?
C'est assez conjoint. J'étais fascinée par ce compositeur et puis tous ces poèmes. Qui parlait de ces femmes, mais d'une manière tellement romantique par rapport à la réalité. En me renseignant sur la traite des Blanches, j'ai lu ce livre.
Ah,
et là, ça a été c'était un coup de foudre pour son travail aussi à Albert Londres.
Et alors, justement, est-ce que Albert Londres, dans son livre, est-ce qu'il y a des références au tango, ou même, voire même à Delfino?
Alors, il n'y a pas de référence à Enrique Delfino, mais on retrouve bien le contexte et les situations avec les macros et les femmes qui sont aussi interviewées, si on peut dire interviewées. On retrouve bien la situation des cabarets aussi plus tard dans le tango. Enfin, c'est très... C'est flagrant, en fait.
Ouais, d'accord. Je propose qu'on écoute un deuxième morceau extrait de ce disque, Francesita, je le dis moins bien que toi. Le morceau s'intitule « Sur ». Voilà, c'était Sur, le sud, si je ne m'abuse. C'est ça, hein. Extrait de l'album Francesita. Alors, ce morceau, je crois, Louise, n'est pas composé par Enrique Delfino.
Non. Celui-ci, c'est Hannibal Troilo qui l'a composé.
Quelques mots sur lui ?
Oui, c'est un bandoneoniste des... très connu dans l'âge d'or du tango dans les années 50 avec son orchestre. C'est un des plus fameux en fait orchestres de cette période.
Ah ok.
Il a aussi influencé Astor Piazzolla puisque Astor Piazzolla faisait partie de son orchestre quand il avait 17 ans et c'est auprès de lui qu'il a beaucoup appris, notamment sur l'arrangement puisqu'il proposait des arrangements à Hannibal Troilo qui souvent étaient légèrement censurés parce que trop modernes.
Ah d'accord. Ah super. Bon, écoute, on va y venir à Astor Piazzolla, bien sûr, mais restons un petit peu sur Francesita. Est-ce que tu peux nous présenter, quand même, il ne faut pas les oublier, tes partenaires dans cet album ?
Oui, alors c'est Mathias Lévy au violon, il y a Alexandre Perrault à la contrebasse,
Alexandre.
Grégoire Letouvet au piano.
Ah bah oui, Grégoire Letouvet qui sera bientôt dans nos studios, dans notre émission. Ah bah super. Alors, ils sont plutôt issus du jazz ? On l'a dit. Comment les as-tu rencontrés et qu'est-ce qui t'a poussé à former un quartet avec eux ?
Alors, j'ai d'abord rencontré Grégoire, avec qui on avait fait un coplateau avec mon précédent groupe. Et on a tout de suite eu envie de travailler ensemble. En fait, on était sur la même longueur d'onde. Grégoire, c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup dans la musique contemporaine. Moi, à l'époque, j'étais en permanence fourrée dans tous les concerts de musique contemporaine possibles à Paris. Et voilà, ce goût, en fait, pour la recherche, pour l'expérimentation, ça a été un point fort de notre rencontre avec Grégoire. Et puis ensuite, par son intermédiaire, j'ai connu Alexandre qui travaillait avec lui dans son groupe Les Rugissants.
Oui, oui.
J'ai tout de suite adoré le musicien qu'il était, scéniquement, hein, c'est vraiment en le regardant jouer, je me suis tout de suite dit que je voulais travailler avec lui. Et puis Mathias Lévy, de la même manière, en fait, il travaillait au hall de la chanson, avec Grégoire, et c'est de cette manière que je l'ai rencontré.
Bon, bah, on reparlera de tous ces musiciens bientôt, en avril, je pense, oui. Francesita, sorti en 2018, donc est un double album, ce qui n'est pas banal pour un premier disque. Est-ce que les deux disques donc, qui composent l'album, les deux CD, on va dire, mais j'imagine en vinyle c'est pareil, est-ce que les deux disques ont une esthétique musicale différente, il me semble ?
Alors oui, au départ, je voulais faire un CD avec des morceaux solo. Mmh. On avait commencé avec Bernard Cavana à travailler sur ces thèmes au départ en solo, qui étaient assez complexes pour le bandoneon, un peu pour les connaisseurs dans la direction des arrangements de Massimo Mori, qui a écrit pour le bandoneon et qui a écrit des arrangements magnifiques où la main gauche en fait chantait beaucoup, ce qui était plutôt assez rare au bandoneon, parce que on utilisait main droite le chant et main gauche les accords. Mmh. Massimo Mori l'a utilisé autrement, et dans cette direction on a souhaité avec Bernard travailler sur des arrangements assez complexes, voilà, techniquement pour le bandoneon. Et puis au fur et à mesure, en construisant l'album, j'ai eu envie de monter le même répertoire, enfin les mêmes morceaux, mais en quartet, parce qu'ils étaient tellement riches en fait dans l'écriture qu'on pouvait très bien les orchestrer, si c'est pas un orchestre, mais en tout cas pour le quatuor. Et c'est de cette manière que j'ai construit ce double album avec des arrangements différents, mais des mêmes morceaux.
Ah oui, oui, il y a... Alors, tous les morceaux ne sont pas dupliqués, il me semble, mais il y en a pas mal qui reviennent. Hein,
Exactement. Ouais. La plupart sont sous forme de deux arrangements. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant, assez pédagogique, quoi, pour l'auditeur.
Super. Alors, j'ai vu qu'il y avait un vinyle également qui est sorti en 2019 toujours sur le thème de Francesita, qui a été enregistré en public au Café de la Danse. Est-ce que c'est le même répertoire ? Et pourquoi l'avoir sorti sous ce format ?
Oui, c'est le souhait du vinyle, ça s'est tout de suite présenté lorsqu'on a joué ce répertoire sur scène avec des musiciens comme ceux qu'on vient de citer, qui sont aussi des musiciens improvisateurs. Il est évident que la version sur scène allait être différente. Et ce concert au Café de la Danse a marqué le début de ces trois albums, en fait, de cette aventure oui. avec ces mêmes partenaires. Et donc j'ai voulu absolument en faire un vinyle.
Il a été enregistré avant donc le double album
Non, il a été enregistré après, oui, bien sûr. Mais c'était le commencement, en fait, la sortie du disque ce jour-là.
D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, tu as prononcé le mot spectacle. Donc, j'aimerais une précision. Est-ce qu'il s'agit de... Tu parles de musique, ou y avait-il une dramaturgie? Parce que le thème pourrait s'y prêter, en plus. Est-ce qu'il y avait une dramaturgie pour le spectacle, ou c'est uniquement une configuration classique de concert?
Alors, j'ai toujours voulu, depuis... dès le départ, faire des concerts un peu augmentés, si je peux dire ça, mais en tout cas de vraiment conceptualiser le concert, pas seulement jouer les pièces les unes après les autres, mais leur donner vraiment un sens à chaque fois les unes avec les autres, avoir un fil rouge conducteur. Et ce livre autour d'Albert Londres, nous en avons choisi des extraits avec Daniel Martin, qui est un formidable comédien et un metteur en scène, un ami très cher. Et on a sélectionné des extraits du livre pour lier les pièces entre elles.
Ah, super. Ah, très bien. Alors, tu nous l'as dit, tu as été en Argentine. J'imagine que tu as rencontré beaucoup de musiciens de tango. J'aimerais savoir comment ton travail, et peut-être j'aurais dû te poser la question après avoir parlé de Piazzolla, mais comment ton travail est reçu là-bas?
Alors, j'ai eu la belle surprise d'avoir un très bel accueil en Argentine. À Buenos Aires, j'ai présenté mon premier disque, celui-ci, là, autour de la traite des blanches, et je redoutais, parce que évidemment en plus c'est un sujet un peu délicat, et non, en fait l'accueil était formidable. C'est un public en plus qui connaît parfaitement ces chansons.
Ah oui.
Et c'était très émouvant de les jouer en sachant qu'ils se les chantaient. Et d'ailleurs ils les fredonnaient avec moi, et c'était formidable.
Ah, super. Alors, tiens, c'est marrant, en rantaine, on parlait d'un festival en Autriche où je te disais qu'il y avait pas mal des gens pas très jeunes, pas tout jeunes. Quel est le public du tango en Argentine, justement? Est-ce que c'est vieillissant, ou est-ce que les jeunes s'intéressent à ça?
Alors, les jeunes s'en emparent encore. Ouais. Y a eu une période assez triste où on disait que le tango était mort en Argentine, parce que les jeunes en avaient assez marre, faut le dire, parce que c'est vrai que ça a quand même une grande importance là-bas. Et donc, ils ont un peu tourné le dos à une période, mais là, ils y reviennent. Ils se souviennent de leurs grands-parents qui leur chantaient des vieux tangos, et c'est quelque chose qui leur tient à cœur.
Ah, super. Bon, on va pouvoir enfin parler de Astor Piazzolla. Je propose qu'on écoute Tanguedia, extrait de l'album. Comment il s'appelle l'album de Piazzolla 2021, c'est ça? Tanguedia. Thank you.
Quilombo.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Nous tenions des propos anarchistes en antenne. Et vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire. Et nous avons le bonheur de recevoir Louise Jalu, compositrice, bandonéoniste également. On vient d'écouter Tanguedia de Astor Piazzolla, adapté par Louise Jalu. Alors, on va pouvoir parler d'Astor Piazzolla. On le connaît quand même un peu mieux en France hein, que Delfino, par exemple, ou Troilo. Mais peut-être qu'on le connaît mal. Tu sais, c'est souvent comme ça. Quelle place a-t-il dans le panthéon du tango classique? Tu as dit qu'à une période, il se faisait taper dessus. Mais maintenant, est-ce que c'est le héros, l'idole ou... et aussi, comment est-il... classé, j'ai l'impression qu'il est plutôt... Est-ce que c'est un classique? Ou moi, j'ai l'impression qu'il reste plutôt avant-gardiste.
Tout à fait. Alors, c'est aujourd'hui la figure emblématique du tango dans le monde. C'est l'icône du bandoneon. C'est devenu la star de la nation, même argentine. Aujourd'hui, c'est un peu sacré, c'est-à-dire que on touche pas à Piazzolla. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ce qui m'a donné envie, évidemment, de m'en emparer dans ce disque à l'occasion du centenaire de sa naissance, en 2021. Et alors que je savais qu'il y allait avoir de nombreux hommages autour de sa musique, dans tous les sens, hein, aussi bien par les musiciens classiques que par le jazz ou les musiciens de tango eux-mêmes, je me suis dit comment aujourd'hui on peut jouer Astor Piazzolla. De quelle manière il est possible de réarranger, réinterpréter. Et donc je me suis plongée dans ce qu'il disait lui-même, dans ses interviews, et je me suis rendu compte qu'en fait, contrairement à ce qu'on pensait, effectivement, et à l'image qu'on en avait, c'est un personnage qui était fasciné par la musique contemporaine. Il aimait beaucoup Ligeti, Stockhausen, et en fait, tous ces compositeurs, il les écoutait, et il était au fait de tout ce qui se passait dans les musiques d'avant-garde. Alors, je suis partie sur ce constat qu'il disait aussi lui-même qu'un musicien se devait de ne pas reproduire ce qui avait déjà été fait, mais de faire autre chose.
Ah, d'accord.
Donc je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose avec sa musique. Je pense que, sans prétention, il aurait peut-être apprécié.
Ah, super. Mais alors, même question que tout à l'heure, ça va être un peu redondant, mais tant pis. Justement, tu t'es attaqué à l'icône. Comment ça a été reçu en Argentine, là, pour le coup, ce travail précis ?
Alors, ça, très bien. On a été classé dans les meilleurs albums en hommage à Astor Piazzolla. Oh, le journal La Nation l'a encensé. C'est l'équivalent du journal Le Monde, par exemple, là-bas. J'étais aussi surprise parce que je ne pensais pas qu'un album d'une petite française aurait cet accueil aussi en Argentine sur l'icône nationale.
Alors, peut-être tu pourrais nous préciser, tu as parlé du tango nuevo, qu'est-ce qui... sans être trop technique, parce qu'on ne s'y connaît pas tellement en harmonie, tout ça, mais qu'est-ce qu'il apporte vraiment ? Est-ce que c'est une histoire de rythme ? Là, en écoutant, effectivement, ça, on voit bien qu'il y a quelque chose de différent de ce dont on a l'habitude d'écouter quand on écoute du tango, mais j'arrive pas à cerner, à le définir. Est-ce que toi, tu pourrais nous aider ?
Oui, alors il a apporté la modalité. Alors c'est assez technique, mais c'est-à-dire la modalité, c'est un univers clos comparé à la tonalité dans lequel on module et dans lequel on va d'un monde à l'autre. Là, l'univers est clos, c'est-à-dire que la modalité, mode est défini. C'est ce qu'il a apporté en fait au tango, qui était complètement enfermé dans la musique tonale. Et il s'est inspiré pour cela des jazzmen, notamment de Miles Davis, qui a remis aussi la modalité au devant de la scène dans son jazz. Et voilà, c'est là où il est révolutionnaire en fait. Il a aussi fait des superpositions de rythmes qui lui ont été inspirés aussi du tango, mais vraiment les siennes, hein, qui lui sont propres. Là, on peut parler d'un style Piazzolla. Oui. Et c'est là qu'il a révolutionné cette musique.
Ouais, ouais. Et au niveau rythmique, le tango, c'est quoi ? C'est du 4-4 ? C'est du 4-temps ?
Oui, c'est du 4-temps, tout à fait.
Et alors toi, il me semble avoir entendu du 7-temps sur un morceau.
Exactement. Alors, sur Libertango, le grand tube de Astor Piazzolla, on se devait de trouver quelque chose de très différent, quoi. C'était impossible de reprendre Libertango de cette manière. Et donc on a souhaité, avec Bernard Cavana, enlever une croche à cette mesure de 4 temps, qui donc est en ensemble de 8 croches, et donc là d'en faire une version en 7 temps.
3,5, donc 7. Oui. Et tu sais que le 7 temps est beaucoup joué dans des pays comme d'Europe centrale, par exemple.
Exactement. Ouais. C'est une façon ce rythme en fait nous a permis d'évoluer et d'aller bien ailleurs, et ces musiques-là nous ont inspirés aussi.
Ah oui, oui, oui. Ah, moi, j'aime beaucoup. Et alors, peut-être il faut quand même préciser que tu avais dans ton personnel. Alors oui, peut-être quand même redire. Est-ce que c'est le même personnel que sur le précédent disque?
Alors oui, oui, c'est le tout à fait.
C'est le même quartet. Mais tu avais un fameux invité.
Exactement. Il se trouve que quelques semaines avant l'enregistrement, Grégoire Le Touvet a eu un souci de santé et malheureusement n'a pas pu venir enregistrer avec nous. On a enregistré à la Philharmonie de Paris et il était absolument impossible de décaler l'enregistrement. Alors, en catastrophe, j'ai appelé Gustavo Bettelmann qui a joué avec Piazzolla à l'Olympia en 77 et je lui ai demandé souhaites-tu venir jouer ces pièces avec nous? Et on a réussi à trouver le temps de répéter et d'enregistrer. Ça a été une aventure incroyable.
Challenge. Mais donc, le pianiste de Piazzolla qui vient carrément. Mais alors, justement, lui, qu'est-ce qu'il a dit de tes arrangements? Il était content?
Il était très heureux parce que j'étais très touchée d'entendre de sa part que pour lui c'était un des prolongements possibles véritables du travail de Astor Piazzolla.
Ah super. Bon, du reste, je crois que l'album a reçu un super accueil ici, hein, pas seulement en Argentine, au vu de toutes les distinctions, tu sais, les trucs qu'on colle sur les pochettes de disques, les chocs, les téléramas et tout ça. Et il y a eu aussi, une nomination aux Victoires du Jazz.
Tout à fait. On a été nommé aux Victoires suite à toutes ces récompenses, les chocs qu'on connaît, les chocs Jazz Magazine, Jazz News.
C'est tout vite, je crois.
C'est ça. Et puis même aussi bien du côté du jazz que du classique, c'est ça qui était assez étonnant et j'en étais très heureuse parce que c'est aussi le propre de sa musique à Astor, c'est d'être un peu entre les deux. Et je suis contente que ça ait été reçu de cette manière, de la sorte.
Mais je propose qu'on écoute Soledad de Astor, comme tu dis. Astor Piazzolla.
Thank you.
C'était Soledad, interprété par le Louise Jalut Quartet, adaptation de, par Louise Jalut de, d'un tube de Astor Piazzolla. Alors, dans quelle as-tu là bon, je te pose une question à laquelle tu as répondu. Donc, je voulais te demander dans quelles conditions a été enregistré l'album Piazzolla, mais tu nous as parlé de la Philharmonie, je crois.
Oui, on l'a. Donc, on... Ça a été soutenu par, par la Philharmonie de Paris. Et ce morceau, en fait, je voulais préciser que c'est un morceau qui, dans lequel il n'y a absolument aucune note de Astor Piazzolla.
Bah.
le procédé pour celui-ci, ça a été de garder uniquement la dramaturgie de la pièce.
Ah, donc, super.
Ce chant de bandoneon qui parcourt la pièce. Et en fait, toute l'harmonie a été changée. Les... Derrière, ce sont des triolets de Blanche très lents qui ne sont pas du tout d'origine non plus. Voilà, dans cette pièce, on est allé un peu à l'extrême.
Mais et c'est quand même basé sur un morceau de Piazzolla.
Oui, tout à fait.
Qui s'appelle
Soledad.
Ah, d'accord. Mais ouais, d'accord.
C'est uniquement la dramaturgie qui est restée.
Ah, génial. Ah, super. Alors, ça date de 2020, je crois.
2021.
Ouais, mais l'enregistrement.
Oui, 2020.
Et donc, je voulais savoir, comment tu avais traversé les confinements liés au Covid ? Est-ce que c'est lié à ça un peu, non ?
Oui, tout à fait. Il se trouve qu'en fait, l'écriture, on était assez en retard dans l'écriture et le confinement nous a permis réellement d'avoir le temps de finir de l'écrire. Ça a été un des aspects positifs de cette période, c'est vraiment d'avoir pris le temps. Et c'était très précieux pour ce disque.
Donc tu l'as bien vécu le confinement, ça a été
Moi je l'ai bien vécu. Je pense à toutes les personnes qui ont été malades à cette période.
Ben oui, bien sûr.
Ça n'a pas été si évident. Mais pour l'écriture, oui, elle a été. Elle a été très bénéfique.
Ouais. Alors, quelques mots sur le label Clarté, que moi je ne connaissais pas du tout, et sur lequel tes trois albums sont sortis. Est-ce que tu peux nous en parler, tout simplement ?
Oui, Clarté, ça fait maintenant longtemps qu'effectivement on travaille ensemble. Il m'a fait confiance pour le premier disque. Qui était moins évident. C'est sûr que Astor Piazzolla, c'est plus connu du grand public. Et voilà, c'est une belle histoire de confiance, en fait, hein, entre nous. Et Clarté, il a publié d'autres disques et il est très éclectique dans son catalogue. C'est surtout musique classique.
Ah oui, je suis allé voir, bien sûr. J'étais surpris d'ailleurs.
Je vous invite à découvrir.
Ouais. Et alors, j'aimerais que tu nous parles aussi de ces pochettes de disques qui sont et de ce graphisme qui est repris à chaque fois dans tes trois albums, bien que traités différemment, bien sûr, à chaque opus. Qui en est l'auteur et pourquoi ce choix d'une unité visuelle ?
Alors, j'ai toujours adoré le graphisme. J'ai beaucoup lu sur le graphisme, j'ai des livres sur le graphisme et j'étais tombée sur une affiche du dernier tango à Paris avec un graphisme extraordinaire et je me suis renseignée, j'ai trouvé qu'ils avaient été primés à plusieurs reprises pour leur travail. Et par hasard, je me suis surprise à voir qu'ils étaient encore en activité. Et j'ai eu envie de les contacter. Et après, c'est devenu en fait une marque de fabrique qui me suit jusqu'à aujourd'hui.
Et tu n'as pas dit leur nom ?
Ah, c'est Homework.
Homework, d'accord. D'accord. Et on va parler de ton nouvel album après avoir écouté Milonga en mi majeur. Et j'avoue mon ignorance, que signifie ce terme de Milonga ?
Alors la Milonga, c'est un rythme de la culture argentine. Il y a les tangos, donc, les milongas et les valses. Et la milonga, c'est une façon de décomposer une mesure de quatre temps en trois parts plus ou moins égales. Et ça donne un autre rythme qui est lié à la danse. Et dans les bals, on danse aussi bien le tango que les milongas.
Ah, très bien. Ah bah justement, tu me permets de te demander, par rapport au tango et donc la milonga, si tu avais, toi, un intérêt pour la danse, le tango, et t'es-t-il arrivé d'être accompagné par des danseurs sur scène ?
Oui, le premier spectacle autour de Francesita, il y avait deux danseurs qui étaient pas à la base des danseurs de tango,
oui. C'était
des circassiens en fait. Et je leur ai demandé pour l'occasion d'apprendre à danser le tango, mais à leur manière, et d'y mettre un peu d'acrobatie.
Ah d'accord. Mais et alors, est-ce que toi tu t'intéresses à ça ?
Je m'intéresse beaucoup, oui. Le rapport entre la danse et le tango, ça a été quelque chose, à un moment donné, assez important pour moi.
Ouais.
Je m'en suis détachée avec Astor Piazzolla, et là j'y reviens un peu plus, mais plutôt autour du blues.
Du blues ? Ah oui, d'accord. Donc tu danses le tango, voilà, c'est ça que je voulais savoir.
J'ai appris un peu les bases, hein, mais ouais. Je ne le danse pas.
D'accord, d'accord. Eh bien, on écoute Milonga en mi majeur.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Les oreilles libres aujourd'hui sont consacrées à la bandéoniste et compositrice Louise Jalut. Alors Louise, on vient d'écouter quoi ? Milonga en mi majeur. Mais je me rends compte que je ne t'ai pas parlé d'un autre disque que tu as fait en duo avec un guitariste japonais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? On n'écoutera pas, mais tu peux quand même nous en parler.
Oui, on a parlé un peu du rapport à la danse. Et à ce moment-là, j'avais aussi envie de jouer dans les balles pour avoir cette expérience du rapport entre la danse et la musique. Surtout que c'est né de là, le tango. Et avec ce guitariste, on a fait beaucoup de balles. C'est un guitariste, donc, comme tu l'as dit, japonais, Hiroki Fukui. Et on a pris les libertés d'interpréter comme on le voulait, avec beaucoup d'élasticité dans le tempo, des tangos de Troilo Grela, pour ceux qui connaissent le répertoire un peu, c'est assez connu dans le répertoire que l'on pratique au bandoneon. Et on a fait un disque de transcription dans lequel l'interprétation est assez libre.
D'accord. Alors, après Delfino et Albert Londres, après Piazzolla, quelle est la matière du troisième album qui sort le 7 mars et dont on écoute des extraits dans notre émission ?
Alors, il sortira le 8, mais bon, ah oui, le lendemain, c'est pas... c'est un peu pareil. Après Astor Piazzolla, je me suis beaucoup posé la question de ce qu'il était envisageable de faire. Et le bandoneon, en fait, je me suis tournée vers ses origines. Il est allemand, il a été utilisé pour jouer des airs liturgiques ou du folklore allemand initialement. Ah oui. Et donc je me suis dit pourquoi pas reprendre des thèmes de musique plutôt classiques et de l'amener vers cet univers tout en prenant encore toute la liberté de s'emparer de ces textes et de ces matières musicales, ces fragments musicaux, pour en faire de nouveaux objets. J'ai voulu aussi aller plus loin, parce que dans le disque autour de Astor Piazzolla, il s'agit d'arrangements qui sont des arrangements qui vont assez loin, mais le morceau original est oui. Encore présent. Là, non. À partir de fragments de pièces de Schumann, de Ravel, de Bach, de Schoenberg, avec Bernard Cavanagh, on s'en est emparé pour en faire d'autres objets. Donc des compositions à partir de citations classiques pour la plupart.
Ah oui, tu parles de citations, c'est ça. Dans le texte de présentation, il fait mention de deux... J'arrive pas à les retrouver, en fait, dans les titres et dans la musique. Tu viens de citer Schoenberg, mais il y a également Debussy. Dans quel morceau ? C'est pas évident à repérer.
Alors, c'est dans la Milonga Blues. Ah, okay. C'est à la fin. Il y a un petit thème de Debussy. Il est bien caché, celui-là.
Ah, d'accord. Alors, Louise, merci de nous rappeler, avec ce titre, « Je », qu'il n'y a rien de grave dans le fait de faire de la musique, rien de dramatique, rien d'austère, tu vois, ni de définitif non plus. Est-ce qu'on peut parler d'une approche ludique et est-ce que tu t'amuses ? Est-ce que tu peux parler de cet aspect-là, moi, qui me tient à cœur quand même ? On n'est pas là pour se faire chier ou pour parce que la vie est triste ou grave. La musique, c'est quand même... tu vois ?
Exactement. Alors, je suis partie de exactement de ce principe que c'est un jeu, qu'on peut se jouer de tout. En fait, j'ai voulu me jouer de tous les dogmes ou de toutes les pensées préétablies, d'avoir aucune limite, de se permettre toutes les libertés. Un peu comme un enfant prend des jouets du passé et se les approprie dans son propre imaginaire. En fait, ouais. C'est un peu de cette manière-là que j'ai souhaité cet album, et tout à fait ludique, parce que quand on monte sur scène aussi, on se met en jeu. Toutes ces notions-là et ce sens du mot jeu me touchait particulièrement.
Et oui, avec justement dans le graphisme là, cet arc-en-ciel de couleurs. Dans quelles conditions as-tu élaboré ce répertoire ? Je crois que tu as bénéficié d'une résidence.
Oui, c'est une résidence à la Villa Médicis qui m'a permis de poser la première pierre de ce disque. Et en ayant ce moment vraiment de réflexion, c'est très un côté un peu monastère à la villa. Et en voyant tout à Rome ces belles pierres aussi être conjointe à l'urbanité, en fait, ça m'a beaucoup touchée. Cet ancien avec l'urbain, voilà, c'était très parlant et c'est de cette manière que c'est né.
Alors tu parles de Rome, des monastères, mais on n'est pas tout à fait dans l'univers de Georges Brassens.
Exactement, non. Mais il y a une notion de patrimoine, et c'est comme ça que j'ai ajouté Georges Brassens à ce répertoire, parce que pour moi c'est le patrimoine aussi français, et voilà, il faisait partie de ces pierres, quoi, ces belles pierres.
Alors, français, oui, je ne sais pas, mais... C'est, oui, patrimoine de la chanson.
De la chanson française.
Et aussi patrimoine de l'anarchisme, ouais. Si tu veux savoir. Moi, j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps, de 3 heures, avec des morceaux de Brassens. Je me suis éclaté, parce que moi, c'est la musique de mon enfance, on va dire. Hein. Et alors, voilà, c'est trop évident, on n'allait pas passer le morceau de Brassens sur Radio Libertaire. Mais on va diffuser un autre truc, mais j'ai une question avant, toujours sur le... J'aime bien savoir, moi, quand même, qui joue. Et donc, le quartet, pour ce disque, se mue en sextet pour ce répertoire. Qu'est-ce qui t'a poussé à recruter ?
Alors, ce qui m'a poussé à le faire, c'est de mettre le bandoneon dans un autre univers sonore. Alors, j'ai voulu... et depuis toujours souhaité travailler avec Ariel Tessier qui travaillait déjà avec Alexandre Perrault. C'est un duo pour le rythme assez incroyable, hein, ce duo. Et donc j'ai ajouté la batterie, mais aussi la guitare électrique avec Karsten Raffel. Alors Piazzolla l'avait déjà fait, hein, dans son quintet, il y avait déjà une guitare électrique. Fait un concert, un magnifique concert à la Philharmonie de Paris pour la sortie du disque dans la grande salle. On était très émus de jouer ici et j'avais invité Karsten déjà. Et cette rencontre a été déterminante parce qu'on s'est tout de suite apprécié autant humainement que musicalement. Et voilà, c'était deux comparses de plus avec lesquels je voulais jouer.
Donc c'est maintenant un sextet.
Et maintenant, c'est un sextet dans ce disque.
Voilà, dans ce disque, et bon, on parlera des concerts après. Alors, j'aimerais bien, avant qu'on l'écoute, que tu nous expliques le titre du morceau « Schumann et Wozzeck ».
Oui, alors...
Wozzeck, français, Alban Berg.
Tout à fait. C'est ça. Dans ce titre-là, il y a... le thème de Schumann qui est donné au début et qui ensuite disparaît. Ensuite, c'est vraiment de la composition. C'est vraiment juste un prétexte un peu pour commencer cette musique. Et ensuite, c'est Berg qui s'invite avec un extrait du magnifique opéra de Wozzeck. Et ça m'amusait beaucoup. Ça nous amusait aussi avec Bernard de les lier dans un même morceau.
C'est un espèce de mash-up, alors.
On peut dire ça.
Donc on écoute. Alors c'est le morceau qui ouvre ton disque jeu, c'est Schumann et Wozzeck.
Thank you.
Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération Anarchiste et on écoute Louise Jalut dans Les Oreilles Libres. Donc on vient d'écouter Schumann et Wozzeck. Alors effectivement, Louise m'indiquait les passages de Schumann. Bon, c'est bien Schumann finalement.
Oui, on redécouvre Schumann.
Carrément, c'est moderne. Et alors, y a-t-il une fête de réalisation pour célébrer la sortie du disque?
Oui, c'est le 9 mars, la semaine prochaine, le samedi à 19h, on sera à Radio France, à la maison de la radio, pour la sortie de ce disque.
Ah oui, donc ce sera diffusé en direct?
Oui, on est en direct aussi, sur France Musique.
C'est quelle mission donc?
C'est Jazz sur le Vif, présenté par Arnaud Merlin.
Super, bah oui.
Et Nathalie Piollet.
Il y a encore de la musique sur France Musique Lyon, incroyable. quelles sont tes prochaines dates de concert?
Alors, demain, nous serons le 2 mars à Plaisir, à la Clé des Champs. Oui. On sera aussi pour les auditeurs plus lointains en Autriche et à Vienne le 14 mars, en Allemagne à Munich le 15 mars, le 20 mars aussi en Autriche à Dornbirn, si je le prononce bien, à Singen, plutôt en Allemagne. En fait, on a beaucoup de dates en Allemagne. Alors pour les auditeurs de Radio Libertaire, je ne sais pas si, s'ils seront sur place. On sera aussi à Stuttgart le 22 mars et puis à Marseille le 30 mars.
Ah voilà. Où ça, Marseille
mars. On est au Babel Music XP.
Ah mais oui. Oui, j'ai repéré ce festival. Ouais, ouais. Ah bah super, super. Et alors c'est le sextet.
Alors là, on sera parfois en quartet, en quintet et parfois en sextet.
Bon, bah voilà. On se renseigne donc sur les sites des salles. Alors, moi j'aime bien savoir, j'aime bien avoir des tuyaux, tu vois. As-tu déjà une idée des prochains thèmes, du prochain thème sur lequel tu vas travailler? Ton prochain répertoire ou tes prochaines idées de création?
Alors j'ai beaucoup aimé travailler sur Brassens, et c'est vrai que le rapport à la chanson me poursuit depuis longtemps, depuis le premier disque en fait, plusieurs de mes albums, presque dans tous. J'ai invité souvent des chanteurs. Dans le premier, j'avais invité Sanseverino, Kateverina Fotinaki. Dans le dernier, j'ai invité Kali sur Brassens, sur Les Sabots d'Hélène. Peut-être c'est une voix que j'aimerais peut-être un peu développer.
Tu parles de la chanson ou de Brassens en particulier?
Alors de la chanson.
Ah, d'accord. Ok. Et d'autres idées, d'autres projets? Est-ce que tu as d'autres groupes, d'autres formations ou du solo ou...
Alors, ça me prend tellement de temps, en fait, que je me consacre à ce travail avec ce groupe. Après, avec Bernard Cavana, on a le souhait de créer une pièce pour orchestre avec cornemuse, bandoneon, cornemuse et orchestre, avec l'Orchestre National de Bretagne, avec lequel on a collaboré dernièrement autour de la création du répertoire sur Piazzolla avec Ensemble à cordes. Et peut-être que voilà, cette création sera certainement en 2024 ou 2025.
D'accord. Ah bah super. Et tu me parlais en antenne d'un orchestre, alors je pense dans le cadre du conservatoire de Gennevilliers, tel que tu nous l'as présenté, ce qui se passait en Argentine avec les quatre bandéonistes. Tu fais ça aussi également?
Oui, alors au conservatoire aussi, je travaille beaucoup à la création de répertoires pédagogiques. Ouais. J'ai donc créé deux orchestres de niveaux très différents. Donc j'ai des petits, des premiers cycles, on dit premier cycle au conservatoire, et puis un orchestre de plutôt d'adultes avec des deuxième et troisième cycles. Et avec eux, je crée beaucoup de répertoires. J'aime beaucoup la pédagogie. C'est une manière aussi de créer de nouvelles œuvres pour l'instrument. Et donc, on écrit beaucoup avec eux. Je demande aussi aux élèves d'écrire des petits morceaux. Et voilà, entre 5 et 70 ans, on redécouvre ensemble le bandoneon.
Bah, tu m'as l'air d'avoir des idées plutôt avancées sur la pédagogie musicale, notamment. Hein.
J'espère, le plus possible. Et puis surtout de ne pas cantonner le bandoneon à un seul répertoire.
Ah bah c'est super, bravo, bravo, bravo. On va se quitter avec Mon Boléro, donc on a une petite idée du compositeur, rien qu'au titre. Y a-t-il une raison particulière dans le choix d'adapter très librement ce tube de la musique classique de Maurice Ravel?
Oui, alors pour moi c'est un peu l'hymne de l'humanité. J'ai toujours adoré ce thème depuis que je suis toute petite. Et le choix était de ne jamais donner le thème original tel qu'il était écrit, mais au contraire de faire des variations perpétuelles.